Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un écrivain libanais de langue française, poète, dramaturge, auteur de La soirée des proverbes, de Histoire de Vasco, de Monsieur Bubble. Écrivain grand prix de la francophonie, décerné par l'Académie française quelques années avant sa mort à Paris. Georges Chéadé était, nous dit-on, très étonné d'avoir écrit ses poèmes. Il s'en sentait tout juste le passeur, le médiateur, un médium. Il n'écrivait pas, il transcrivait. Une vie, une œuvre, Georges Chéadé, première diffusion sur France Culture le 2 novembre 1995.
Je suis évidemment très heureux. Je suis un petit peu surpris parce que en littérature, je suis un petit peu, en quelque sorte, un franc-tireur. Et qu'une institution aussi traditionnelle que l'Académie française me donne ce prix, c'est pour moi un grand honneur et puis une grande satisfaction.
Une vie, une œuvre.
Un jour où ces miliciens étaient chez nous à la maison et parlaient des événements, un photographe est venu pour les photographier. Eh bien, Georges n'a accepté de se faire photographier avec le groupe de guerriers, si vous voulez, qu'avec un livre de poésie qu'il a ouvert et il est photographié en lisant un poème.
Georges Chéadé ou La transparence de l'absence, une émission de Marie-Christine Navarro, réalisation Daniel Fontanarosa.
Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, il m'avait paru très âgé. Et ça m'avait frappé. Et puis, en fait, pendant les 20 ans qui ont suivi, je ne l'ai pas vu vieillir du tout. Georges ne vieillissait pas. Il était très ridé, comme ça. Il avait de très fines rides et il était comme un parchemin. Il était parcheminé, ce qui fait qu'il ressemblait un petit peu à un livre lui-même. Et les livres ne vieillissent pas.
Alors, attendez, où les avez-vous vus, ces photos?
Là, sur la cheminée.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a une photo. Oui, alors il était, ben voilà, vous l'avez là, à peu près. Quand je l'ai connu, il était à peu près comme ça. Et voilà Bounour. Voilà Gabriel Bounour. Le voilà aussi au Liban. Le voilà avec notre fils quand il était petit. C'était donc en 1952, 53, ça. 53, peut-être.
Essayez de le décrire, là.
Eh bien, il était très mince. Ça, c'était d'abord ce qu'on voyait, n'est-ce pas? Un jeune homme mince, très mince même. Il était très rieur.
Il portait des lunettes.
Il portait des lunettes. Il était, dans la vie courante, il était assez impatient. Et en vérité, indescriptible, parce que surprenant toujours, insaisissable.
Il y a une expression qui lui ressemble beaucoup, qui revient parfois dans ses poèmes. C'est une locution, c'est à peine. Il dit « Vous ne retrouverez pas la paix du royaume ». Et puis, quelques vers plus loin, à peine des battements de fer, à peine l'ange et l'hiver. Et le mot à peine lui ressemble. Enfin, tout son rapport à la vie, au langage, c'était tenait un petit peu dans cette expression. Il effleurait à peine les mots. C'était plutôt une caresse. Et en même temps, il touchait à peine aux choses. Mais en même, et puis, il y a, dans le mot, dans la locution à peine, il y a le mot peine.
Ceux qui partent pour oublier leur maison et le mur familier aux ombres, j'annonce la plaine et les eaux rouillées et la grande Bible des pierres. Ils ne connaîtront pas, à part le fer et le jasmin des formes, la nuit heureuse de transporter les mondes, l'âge dans le repos comme une sève. Pour eux, nul chant, mais la rosée brûlante de la mer, mais la tristesse éternelle des sources.
Georges Chéadé, poète libanais de langue française, né au début de ce siècle à Alexandrie, mort à Paris en 1989, prix de la francophonie en 1985, quelque part entre Liban et France, entre Beyrouth et Paris, et de plus loin encore, d'un lieu indéterminé, de cette voix du poème qui n'appartient à personne, n'habite nulle part et nous livre indiciblement à l'ailleurs. Mais tout d'abord, comme leurre et miroir, la remontée des origines et de l'enracinement, la rencontre dans les années 30 à Beyrouth par un de ses premiers admirateurs et amis, le général Georges Buy.
Un jour, muté à Beyrouth, et y arrivant, je descendais dans une rue en pente. Vous savez, Beyrouth, c'est bâti sur la montagne qui tombe dans la mer, là. Quand t'as un balcon qui se trouvait juste en face d'un croisement où j'étais arrêté, j'ai vu la fine silhouette de Georges avec son éternelle cigarette au bec, qui m'a reconnu. J'avais un cabriolet tapageur. Qui ne marchait pas, mais qui avait beaucoup de gueule, et qui m'a fait signe qu'il descendait. Il est monté dans la voiture à côté de moi, et je crois que depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Et si je vous raconte cette rencontre, c'est qu'elle m'a tout de suite permis de noter une caractéristique de Georges, c'est que dans la foulée, il m'a demandé de l'accompagner jusqu'à la plage de Bir Hassan, qui était à l'époque une immense plage absolument vide de tout, qui est maintenant pleine du béton, mais et au bout de laquelle sa sœur avait un petit chalet de bain de mer, et il m'a demandé de le conduire jusque-là. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que le chalet était à 5 mètres de la route, à peu près, dans le sable, et que ces 5 mètres-là, c'était pour lui comme un torrent de lave. Il a relevé ses pantalons jusqu'aux genoux, il a marché sur la pointe des pieds, quitté le pavé de la ville, quitté le macadam, pour lui c'était le martyr. Georges, c'est l'homme de l'URPS, c'est l'homme de la ville avant tout.
Et passer une journée avec lui dans Paris, c'était...
Ah, c'était extraordinaire, c'était... Il avait un sens permanent de la poésie.
Albert Dichy.
C'était quelqu'un avec qui tout était imprévu. Il transformait aussi, je me souviens, en village toute sa vie. Je veux dire, lorsque j'allais avec lui déjeuner, à un moment donné, il allait très souvent dans un café qui s'appelle le Rouquet, qui était à l'angle de la rue
de Saint-Père
et du boulevard Saint-Germain. La dame qui tenait le bistrot lui avait proposé un jour, s'il avait un jour des difficultés à payer son repas, lui avait dit, vous pouvez venir de toute façon, si vous avez des problèmes, vous pouvez venir déjeuner sans payer jusqu'à la fin de votre vie. Il était émerveillé de cela. Il connaissait le pharmacien qui était à côté, il connaissait le marchand de journaux, tout le monde l'appelait le poète dans le coin. Il avait le génie de transformer en village même Paris. Enfin, il avait des relations comme ça extrêmement... Il était d'une vivacité, d'une drôlerie étonnante. Quand on lit ses poèmes, on a l'impression de quelqu'un de très tenu, de très réservé, de très... Mais en même temps, il était d'une... Il avait quelque chose d'extrêmement juvénile, voilà. C'était une fête, enfin.
Et c'était quoi justement la vie à Beyrouth à cette époque-là, lorsque vous rencontrez Georges Chéadé dans les années 30?
Alors là nous entrons dans quelque chose d'extraordinaire. D'abord, lorsque Giraudoux, lorsque les grands écrivains français venaient voir Bounour, ils tombaient sur ce secrétaire extraordinaire et qui les éblouissait par sa poésie. Donc, peu de hauts fonctionnaires de l'État ont eu des secrétaires de ce niveau-là et qui laissaient éblouir les plus grands personnages venant le voir. À côté de ça, ben, il venait à peu près jamais à son bureau. D'abord, quand on téléphonait jusqu'à 11 heures, on vous répondait « il n'est pas arrivé ». Si on téléphonait 11 heures et demie, on vous disait « il est parti ». Et là, dans l'intervalle, était passé le coiffeur qui venait le raser là, parce qu'à Beyrouth, on ne va pas se raser, c'est fatigué à se raser quand on peut être rasé pour rien du tout. Il avait bu son café, et puis il y avait les teneurs de parolis, c'est le PMU de l'endroit, mais fait par des bookmakers, ou des jockeys qui défilaient dans son bureau. Quelques mots avec Gabriel Bounour, et puis il repartait. Alors je passais le prendre là très souvent, et c'était direction ensuite le Café du Brésil, où on retrouvait le groupe chez AD, qui s'intitulait Les Émerveillés d'eux-mêmes. La deuxième chose, alors celle qui compte, c'était la maison chez Hadé qui était bâtie au milieu d'Achrafieh, au sommet, à un endroit où en face il y avait encore un petit champ d'orge ou de luzerne, encore la terre battue, une petite villa avec une grille rouillée, un petit escalier avec un jujubier d'un côté, un petit palmier miteux de l'autre, et puis une villa avec une grande pièce, comme dans les maisons libanaises, les trois colonnes, les grandes pièces. Et les chez AD étaient les orthodoxes qui n'avaient pas fait fortune dans la banque. La famille chez AD était une famille nombreuse d'abord. Georges avait trois sœurs et deux frères. Le vieux père aveugle, d'abord il y avait même l'oncle, le frère du père, tous les deux se ressemblaient, qui étaient des grands, des vieux messieurs grands, maigres, secs, qui n'avaient que les os et la peau. Et le vieux père aveugle, qu'on appelait tous papa, avec sa toque. Et une mère extraordinaire, une petite femme qui allait de pièce en pièce, gouvernait des petites servantes pieds nus qui circulaient là sur les tapis très usés. Et au milieu de tout ça, au milieu de toute cette fantaisie de roman russe, des personnages très extraordinaires qui avaient commandité des coups d'État au Brésil, qui ont été récompensés pendant quelque temps jusqu'à ce qu'un autre coup d'État fasse qu'il n'ait plus de revenus. Ouais, c'était vraiment des gens que j'ai adorés, tellement haut de couleur. Et installés au fond de la pièce, sur un grand divan de velours rouge bien râpé, il y avait Georges avec sa tasse de café à la main et ses cigarettes, qui régnait sur tout ce petit monde.
Chez AD, nous sommes chez vous et vous êtes la femme de Georges chez AD. Je voulais vous demander la rencontre, ça s'est passé où et comment, ou les rencontres, parce qu'il y a eu le Liban et puis ensuite Paris.
Oui, mais la rencontre s'est faite, eh bien, ni au Liban ni à Paris, mais sur un bateau. Et sur un bateau qui s'appelait le ou la Providence. J'avais rencontré la sœur de Georges à Paris, quand je dis la sœur de Georges, après, mais enfin, j'avais rencontré une dame, femme d'un diplomate italien, et qui m'avait dit qu'elle était libanaise et qu'elle partait au Liban, qu'elle n'avait pas revu depuis 8 ans, à cause de la guerre.
C'était en quelle année ?
Car c'était en 1946. Et puis, elle ajoute, et je vous présenterai mon frère, qui est un homme très important. Et alors, sur le bateau, alors je me suis demandé pourquoi elle m'avait dit qu'il était très important.
Vous l'avez vu, quelle impression il vous a fait?
Ah ben, oui, il m'a fait l'impression d'un, je ne vais pas dire d'un vieux jeune homme, mais d'un jeune homme en allant vers la quarantaine, vers 38 ans, quelque chose comme ça. Donc ça me paraissait, mais tout mince, presque, je ne dirais pas freluquet, mais un petit peu comme ça, tellement mince. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, au bout de 2 minutes, il m'a fait rire. Et je n'ai pas cessé de rire après avec lui, car en 1946, c'était fin septembre, et il y avait encore, les voyages étaient, on considérait qu'il pouvait quand même sauter sur une mine. Et à l'avant du bateau, il y avait un type qui regardait, qui scrutait la mer pour voir s'il y avait des mines, et nous faisions 2 fois par jour des exercices de sauvetage. Alors, je savais que s'il y avait quelque chose, nous avions tous des bouées de sauvetage et nous allions à l'avant du bateau, à côté du petit bateau, de la petite péniche qu'on allait mettre et dans laquelle il fallait prendre place. Et alors, il me portait ma bouée et nous allions comme ça 2 fois par jour et en rigolant tout le temps, n'est-ce pas ? Voilà, c'est comme ça. Et puis alors après, au Liban, bien, on s'est vus tous les jours, on ne s'est plus quittés, en fait. Car je partais pour découvrir le monde, mais c'est finalement, j'ai cessé de penser à ça, de penser au monde géographique, car j'ai découvert la poésie.
À travers lui.
Cette poésie-là.
Mais lui-même s'est présenté en tant qu'écrivain ?
Non, non, pas du tout, pas du tout. Et sur le même bateau, il y avait les professeurs qui allaient en Égypte et au Liban, qui allaient retrouver leur place de professeur dans des écoles, dans des universités, dans des collèges. Il y avait Étiamble. Il y avait Étiamble qui était là. Il y avait le professeur Robin, qui était un grand ami de Georges.
Quand est-ce que vous avez lu la poésie de Georges Chiadé ? Quel effet elle vous a fait ?
Tout de suite. J'ai été absolument émerveillée. J'ai été émerveillée. Et lui, qui passait, même parmi les gens qui aimaient sa poésie, qu'il connaissait depuis des années, qui passait pour un poète, je dirais, difficile, difficile à comprendre. Moi, ça ne m'a jamais paru difficile.
Si jamais tu reviens en terre natale, à pas lents comme un cheval dont le soir accroît la fatigue, oh, va dans ce jardin, retrouver la rose méconnaissable, le chrysanthème à la crinière de lion. D'immenses araignées volent avec des papillons, comme dans les fièvres de l'enfance. Souris ou pleure, mais ne crains rien. C'est l'ombre qui remue avant d'être nuit claire.
Georges Chiadé, c'était un homme de cette époque qui produisait des gens de très vieille culture, comme ça. C'était un homme avec de différentes strates de connaissances de langue. Il était né à Alexandrie, il avait vécu en Égypte, il avait vécu au Liban, en France. C'était vraiment un homme de très grande et de très ancienne culture. Donc, le français était chez lui une de ses strates culturelles et c'était la langue dans laquelle il avait décidé de s'exprimer. Il avait dit une fois dans un entretien qu'il avait découvert la langue française en entendant le mot azur. Le mot azur lui avait paru tellement beau. En disant cela, il ne se rendait pas compte d'une chose, c'est que le mot azur vient d'un mot arabe. Et donc, c'est là où il y a une connexion profonde quand même. Voilà. Et il y avait un mariage d'amour avec la langue française chez Adé. Georges Chiadé était aussi le produit d'une époque, c'est-à-dire qu'il était le produit du mandat français aussi. En 1920, je veux dire, il avait 13-14 ans, il y a eu, la France s'est installée au Liban, donc il a grandi, il a vécu dans ce climat, et ça a imprégné toute son œuvre.
Oui, il faut peut-être aussi souligner le rôle qu'ont eu certains intermédiaires français au Liban pour lui.
Gabriel Bonnour.
Voilà.
Gabriel Bonnour a été vraiment pour lui l'intercesseur majeur. Enfin, Gabriel Bonnour était à cette époque un des critiques français les plus connus. Il avait une chronique régulière dans la NRF. En même temps, c'était quelqu'un d'une extrême discrétion. Il n'a publié qu'un seul livre durant toute sa vie, et simplement parce que ses amis insistaient pour les réunir. Et Gabriel Bonnour était arrivé à Beyrouth en 1922-23. Chiadé lui avait montré ses poèmes. C'est grâce à Bonnour que Chiadé a été publié dans la revue Commerce, qu'il a été aussi mis en contact avec ce qu'il y avait de plus récent dans la littérature française.
Il a été reconnu tout de suite en tant que poète par Éluard, par Saint-John Perse, en fait.
Très vite, oui, très vite. Ouais. Mais Bonnour a joué aussi pour lui un rôle important parce que Georges Chiadé avait commencé par des poèmes extrêmement exubérants, pleins de vivacité, de cocasserie, un petit peu comme Max Jacob. Il avait un don extraordinaire, il écrivait beaucoup de poèmes. Et puis, je me souviens qu'il m'avait dit cela, enfin, il m'avait dit un jour, Gabriel Bonnour m'a dit, la poésie, ce n'est pas simplement du jeu.
Pas simplement jouer avec des mots.
Oui, il ne faut pas seulement jouer. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une période de 10 ans de silence entre Poésie 1, la première plaquette de poèmes importants qu'il a publié, et la seconde. Ces poèmes, ensuite, sont devenus beaucoup plus graves, beaucoup plus... le chant est devenu beaucoup plus profond.
Une transparence aussi.
Il y a une transparence, une ampleur beaucoup plus grande, plus quelque chose de douloureux aussi, de plus tenu, de plus... Et il n'a retrouvé sa cocasserie, son humour, que dans le théâtre par la suite.
Oui, il a aussi travaillé beaucoup avec Bounour à la création d'une université, enfin, de, aussi au Liban, c'était important, ça.
L'école des lettres, ouais. Oui, voilà, qui avait été créée donc, dans les années 40 par Gabriel Bounour, qui avait été le premier directeur. Il y a eu ensuite Gaëtan Picon, qui a été aussi un des grands amis de Georges Chéadet. Et Georges Chéadet était secrétaire de l'école des lettres pendant des années.
Je l'ai connu d'abord au Liban, j'avais 17 ans quand je l'ai connu, il était nettement plus âgé que moi.
Robert Abirached.
C'était un homme qui n'opposait absolument pas au poète, au monsieur, au contraire, c'était quelqu'un qui adorait la conversation, qui adorait aller dans les cafés, qui était un redoutable joueur de poker et de cartes, qui avait fréquenté les casinos, d'ailleurs qui s'était fait interdire au casino à un certain moment pour ne plus trop y aller.
Pour ne plus perdre d'argent.
Donc c'était quelqu'un de, vous voyez, tout à fait en même temps dans la vie, mais joueur, c'est un joueur.
Et par exemple les cartes, c'est pour lui c'était vraiment une chose très importante. Pour Monsieur Boble par exemple, il me disait on ne comprend pas Monsieur Boble si on ne prend pas en compte le fait que c'est quelqu'un qui joue aux cartes, parce qu'il joue aux cartes dans la pièce. Et pour lui, il me disait, jouer aux cartes, c'est ne pas être sérieux. Si quelqu'un joue aux cartes, c'est quelqu'un de bien parce que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Être sérieux pour lui, c'était le défaut majeur. Enfin, il trouvait René Char sérieux, voilà.
Mais pas Saint-Jean-Perse en revanche.
Non, Saint-Jean-Perse, je crois qu'il aimait énormément le Saint-Jean-Perse des loges, du premier recueil qui est plein d'images de la Guadeloupe, qui est plein de vivacité, d'odeurs de café, de choses, enfin, de parfums. Il aimait moins, je pense, le Saint-Jean-Perse un peu plus grandiloquent. Et puis il avait une tendresse pour Saint-Jean-Perse, il trouvait que c'était le grand gouverneur de la poésie, alors que René Char, il pensait qu'il se prenait un peu pour Héraclite, voilà. Dans la vie, il était extrêmement... Oui, il avait une légèreté permanente. Il détestait les conversations sérieuses. C'est-à-dire que on pouvait... Ça venait comme ça, par un biais. Mais il n'aimait pas la pesanteur. Il était transparent. Il avait la légèreté des gens qui ont tout compris, au fond. Et qui, pour qui ce n'est pas la peine d'insister. Tout était d'avance compris. La tristesse, la mélancolie, la peine...
Vous pouvez nous décrire Georges à cette époque, quand il était jeune?
Très mince, avec ce visage sculpté, avec cet œil de verre qui était immobile quand même dans son visage, mais qu'on ne voyait pas trop, qui était très bien, très bien, très bien ajusté. Il était toujours très strictement habillé, cravaté, même par les grandes chaleurs de Beyrouth. Je n'ai jamais vu Georges sans cravate et sans habit très... Et même une fois, Brigitte, à qui je demandais des nouvelles de Georges, alors c'est des années plus tard, 20 ans plus tard, ou 30 ans, m'a dit « Oh, il a perdu tout son argent au jeu, il n'a plus le sou, pour se consoler, il a commandé 5 costumes.
» Tout à l'heure, comme vous avez dit, j'ai lu les poèmes « Poésie 1 », avant de le rencontrer, ça a été un choc. Qu'est-ce qui vous a fait ce choc dans cette poésie?
En même temps que Poésie 1, j'ai eu ce livre extraordinaire qui est Rodogunsin. Alors Rodogunsin, c'est de Bounour disait, c'est pas peut-être la plus grande œuvre surréaliste, mais c'est la seule qui soit naturellement surréaliste. J'ai été très pris par ça. Et en même temps, j'ai rencontré l'homme qui était exactement ça, et puis sa vie. Il y avait lui, tout son rayonnement et tout ce monde qui arrivait comme les papillons à la lumière autour de lui et que j'ai rencontré grâce à lui. Extraordinaire, parce que non seulement Georges Nakache, qui était le rédacteur en chef, puis le propriétaire du grand journal du matin, non seulement des Gab Bounour et tous les autres, mais même les Abadaï, c'est-à-dire les types qui gardaient la porte de la maison. C'est l'un d'entre eux qui m'a procuré les contrebandiers qui m'ont fait passer en Palestine quand je suis parti rejoindre De Gaulle, par exemple. Un gros type musulman, en plus, qui gardait une maison grec-orthodoxe, vous voyez.
Ça doit être une petite ville où il y a des propriétés, un village. Je n'ai jamais entendu ce nom-là, Paola Scala. Les hommes parlent toujours des lieux où ils ont vécu faute d'espérance. Et d'abord, où est-ce? Et qui sont Michel, Arnold et les autres? Ils ne me connaissent pas. Je n'ai pas de chapeau. Je n'ai rien. Et que ferais-je chez des gens qui parlent comme lui? La parole, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le vin, ce n'est pas la vie. Il y a d'autres misères, d'autres souffrances que dans les images du cerveau. Ah. Excelsior. Un grand chien. Près de la rivière. Un vieux pont qui est l'image même de la patience. Pourquoi n'irais-je pas là-bas? Alexandre de Paola Scala. Mais il m'a recueilli, je le jure. Et vous verrez que la vie n'est pas sans fondement. Oh, ils me chasseront, je connais bien le monde. Qui êtes-vous, Alexandre? Paola Scala. Allez chez eux. Allez là-bas.
C'était une rencontre par petite table.
Jean-Claude Morin.
Et nous n'étions pas à la même table, mais il avait un verbe tellement navigant, tellement rapide, tellement voltigeant, c'est le terme que je cherchais, que à chacune des tables, ce verbe venait jusqu'à nous, n'est-ce pas? Et donc, c'est à partir de là qu'ensuite, il est venu, parce qu'il avait entendu dire par l'hôtesse combien j'avais aimé la soirée des proverbes, et entre-temps j'avais lu d'ailleurs ces autres pièces, mais la soirée des proverbes est restée la pièce pour moi, enfin les autres, beaucoup sont très belles aussi, enfin l'histoire de Vasco, le voyage, etc. Mais il est venu jusqu'à moi, et puis ensuite on a eu un aparté, et puis à partir de là, nous avons eu très régulièrement des rencontres aussi bien à Beyrouth qu'à Paris à mon retour du Liban. Très vite, nous avons pris l'habitude de nous rencontrer chez lui une fois par semaine après la sieste. Mais il demandait à ce que chaque fois, pour préserver la qualité du rite, pour qu'il n'entre pas dans une habitude bien établie, il demandait que chaque semaine, avant notre rencontre, je lui téléphone pour la confirmer. Il fallait qu'il y ait une confirmation au sens très noble du terme. Et à cet égard, je voudrais vous citer un épisode qui est assez étrange et qui pourrait paraître invraisemblable, mais qui est tout à fait réel. L'une de ces fois où je devais le rencontrer, le surlendemain, c'était toujours 2 jours avant qu'il fallait téléphoner. Donc je compose son numéro, comme je le faisais d'habitude. Et puis, pour la première fois, c'est une voix de personne un peu âgée qui me répond, parce que Brigitte, sa femme, tenait une galerie, donc elle n'était pas là dans la journée. Et cette personne me dit « Oui, je vais vous passer Georges ». Et alors, il arrive et il me dit tout de suite « Comment as-tu su que j'étais chez ma mère ?» Et je lui réponds « Mais je ne l'ai pas su, j'ai composé. » Eh bien, écoutez, vous me croirez ou non, mais cette transmission, enfin, Georges Chéadé a connu une période, ses premiers recueils, Rodegunsin, etc., très surréaliste, n'est-ce pas? Mais il m'avait transmis son numéro de téléphone, celui de sa mère, sans que véritablement je le sache.
Portrait de Jules.
Ce jeune homme qui descend une rue de Montevideo, un diamant au doigt, habillé de noir, comme un juge agricole, c'est Jules, fils de Jean. Il désire prendre une tasse de thé dans une barque alors que la mer est loin. Il sait bien des choses quand il marche. Comment répondre à la pie, saluer à sa fenêtre de faïence l'écolière de 16 ans comme une noisette dans la nuit. De grands arbres déversent leur fourrage. C'est une belle fin d'après-midi en Uruguay. Maintenant, Jules, qu'es-tu devenu depuis que tu as perdu les 20 ans de ton ombre? Que s'est fané le mimosa de ton gilet fleuri? Dehors, il y a un petit vent indien qui pleure. Comment s'imagine ton visage, ceux-là qui ne t'ont jamais vu, assis sur les marches de tes livres ou pieds nus dans tes sources, à la clarté d'une bougie qui rayonne de travers? Si je leur disais que tu ressembles à un facteur des montagnes, à un chêne déplumé par la nuit, éléphant et papillon réunis sous la même enveloppe, avec ton grand nez comme un sac de voyage, avec tes jambes qui n'en finissent plus. Car tu es long, Jules, comme deux...
Il y a l'Orient, et puis il y a aussi quand même peut-être quelque chose qui a joué, et qui a joué certainement, c'est la rencontre avec le surréalisme. Même s'il n'est pas considéré comme un poète surréaliste, il y en a tant des traces dans son théâtre, hein. La rencontre avec le surréalisme et avec Breton a été déterminante aussi.
Ça a été peut-être la chose la plus importante dans sa vie, en fait. Il avait commencé à écrire très très jeune des poèmes qui étaient surréalistes avant la lettre. Et lorsque il a fait la rencontre du surréalisme, il y a eu une vraie rencontre. C'est-à-dire que il avait pour Breton, il m'avait dit une fois qu'il avait, il était même étonné de cela, il avait un sentiment religieux pour Breton. Breton était le pape. Enfin, il me disait quand j'arrivais à Paris. Tout Paris était centré par Breton. Et Breton arrivait à donner l'illusion à tous les gens qui l'entouraient que quelque chose existait, que la littérature était une chose sérieuse, que c'était vraiment la chose la plus importante du monde. Et il me disait ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il avait une admiration très très profonde pour les écrits de Breton. Je pense qu'Éluard pour lui était vraiment le poète surréaliste. Mais la personne de Breton a joué un rôle considérable dans sa vie.
En 48, on a vu donc Breton au café pour la première fois.
Ici à Paris.
À Paris, et on y allait tous les jours aussi. Tous les jours. Donc pendant 2 ans, puisque de 48 à 50, on était tous les jours avec Breton au café.
Et de quoi parlait-il ?
1 heure, 2 heures. Avec Breton, poésie. Breton nous réservait chez AD, il avait Benjamin Perret à sa droite, Elissa à sa gauche, Georges et moi en face. Et on parlait de tout avec les surréalistes. On n'était pas d'accord. Il y avait les dissidents, Patrick Wahlberg et Robert Lebel. C'était les, je ne dis pas les mauvais élèves, mais ceux qui se moquaient, qui rigolaient un petit peu. L'autorité comme sa plénière de Breton, ça en agaçait beaucoup.
Chez AD l'acceptait ?
Oui, ça nous amusait. Nous avons eu un jour où on a failli se fâcher pour de bon.
À propos de quoi ?
On parlait poésie, bien sûr. Et Georges disait, moi, je n'aime pas beaucoup Germain Nouveau. Ah, vous n'aimez pas Germain Nouveau, mais quoi ? Et Breton dit un vers de Germain Nouveau. Georges dit, mais alors, à ce moment-là, moi, je préfère, pourquoi pas, un vers de Daubigné, le printemps de l'église et l'été sont passés. Alors, Breton dit, je chie sur l'église et sur le printemps de l'église. Alors, Georges dit, eh bien moi je chie sur Germain Nouveau et nous sommes partis, en claquant la porte. Et Georges dit, je n'y retournerai jamais, qu'est-ce que c'est que ça hein? Et puis le lendemain, un télégramme de Breton, cher ami, Max-Paul Fouché rentre d'Afrique, venez, nous allons parler des sorciers africains, votre présence est indispensable, sans vous la soirée ne sera pas la même, et voilà, et nous sommes allés, et il n'y a pas eu de fâcherie. Mais Breton a eu une importance très grande quand on a joué Monsieur Boble et avec toute la cabale qui en a suivi. Eh bien, Breton a défendu la pièce d'une façon extraordinaire.
Une fois, je lui avais demandé ce que le surréalisme lui avait apporté. Il avait réfléchi un petit peu, il m'avait répondu tout simplement la vitesse. Et j'ai compris plus tard ce que cela signifiait, c'est-à-dire que le surréalisme donnait la possibilité d'exprimer en un vers 1000 choses. Alors que tous les poètes libanais, par exemple, il y avait toute une tradition de poètes libanais qui précédaient chez AD au Liban, ils écrivaient tous dans un style extrêmement classique, très respectueux des formes, des traditions littéraires, ils étaient parnassiens, ils admiraient le comte de Lille, Edmond Rostand. Et en fait, on se rend compte très bien que finalement ce que Georges Chéadet dit en un vers, il le disait en 10. Il m'avait dit cela aussi, je crois que c'est très important. Lorsque j'ai commencé à écrire, au Liban on me disait, oh le surréalisme c'est du parisianisme, c'est vraiment imiter les Français. Il me disait, les gens ne se rendaient pas compte que c'était tous les poètes classiques, traditionnels, qui imitaient qui était dans l'imitation de la littérature française, comme ça, de ce qu'il y avait de pire, au fond, dans la littérature française. Et le surréalisme, au contraire, c'est ce qui m'a permis d'être libanais. C'est ce qui m'a permis de faire entrer l'Orient dans mes poèmes. C'est le surréalisme qui a permis à Aimé Césaire d'être martiniquais. C'est ce qui a permis à Malcolm de Chazal d'être de l'île Maurice. C'est grâce au surréalisme qu'il a pu faire entrer dans la langue française cette sorte d'étrangeté qu'on ressent lorsqu'on lit ses poèmes et qui est sa part personnelle, enfin, qui est la place faite au rêve de l'Orient, enfin.
Mais un rêve caché chez lui. Le Liban est caché.
Le Liban est caché. Sauf dans quelques poèmes de jeunesse, il ne cite jamais le mot Liban.
Vous lui reprochez d'ailleurs au Liban.
Oui, c'est-à-dire que les gens lui en voulaient un petit peu parce que, au fond, il n'était pas le chantre du nationalisme libanais, il n'était pas le... Et Chehadé était très énervé, enfin, par tout cela. Il disait, les gens ne se rendent pas compte, mais si le Liban ou quelque chose du Liban existe dans la poésie, c'est grâce à moi. Ce n'est pas parce que on met 15 fois le mot Liban dans un poème que un poème, respire le Liban. Il me disait, c'est pas parce qu'on met le mot parfum dans un verre qu'un verre est parfumé. Et il me disait, le Liban est comme un secret dans mon œuvre.
Ils furent plusieurs qui assistèrent à cette soirée et qui maintenant sont morts. Le temps a jeté leurs âges par la fenêtre. L'eau et le gazon ont pourri leur corps. Si la mélodie peut survivre dans l'âme d'un enfant, si tout ce qui fut esprit demeure, je vais raconter l'histoire d'une nuit merveilleuse.
Alors, vous avez là l'affiche de Monsieur Bob, le Vitali, 1951, au théâtre de la Huchette. Voilà, Monsieur Bob, c'est une pièce en trois actes, la musique de Maurice Ohana, les décors de Dora Maar. Voilà, et bien c'était justement, Histoire de Vasco, Barreau n'avait déjà plus de théâtre à ce moment-là, et les répétitions, et il a produit la pièce au théâtre Sarah Bernhardt. Barreau a monté plusieurs pièces de Georges, puisqu'il a monté Le Voyage en 61 à l'Odéon, il a monté Histoire de Vasco au Sarah Bernhardt, il a monté La Soirée des Proverbes dans le premier petit théâtre Marigny en 1954. Il m'a dit ceci, il m'a dit, quand je t'ai rencontré, je vais te dire une chose, je n'écrivais plus depuis 8 ans, parce que Beyrouth, c'était son travail, quelques copains, le jeu, beaucoup.
Il a perdu beaucoup d'argent.
Beaucoup. Tout ce qu'il a gagné au théâtre. Et c'était comme ça. Et donc, n'étant plus dans l'atmosphère, il n'écrivait plus depuis 8 ans. Et nous sommes rencontrés en 46. Il a 46-48 au Liban. Et après tout ça, de 48 à 50, il est venu à Paris. Il a eu un travail à l'UNESCO. 51, on jouait la pièce de théâtre. 54, La Soirée des Proverbes. 56-57, Histoire de Vasco.
Oui, l'écriture reprend.
Le film Gora, oui. Avec Baratier. L'émigré de Brisbane, Les Violettes, Le Voyage. Et Poésie 1, Poésie 2,
Poésie 3.
Poésie 3, Si tu rencontres un ramier.
Et Le Nageur d'un Seul Amour.
L'Écolier Sultan, Le Nageur d'un Seul Amour. Alors il m'a dit, je peux dire que c'est grâce à toi, à la découverte que tu as faite et à ton amour pour ce que je faisais, que je me suis remise à écrire, parce qu'on se voyait quotidiennement, et donc quotidiennement on en parlait, mais pendant des heures.
Mais d'abord, quels sont ces étrangers qui dorment là, qui ne sont pas de notre ville ?
Des compagnons.
Tu sais, je ne t'ai pas cherché longtemps, je n'ai pas erré. Pour venir à ta rencontre, je me suis seulement endormi dans la campagne après avoir bu du lait. Écoute, ils disent à Paola Scala que tu as oublié ton village. Ils disent que tu ne veux plus les revoir. Ils sont assemblés autour d'un puits. Ils chantent, ils crient, ils t'appellent ingrat. Leur cœur éclate comme des châtaignes. Pourquoi ne te lèverais-tu pas? Pourquoi ne marcherais-tu pas? Henry Bubble, où est ton âme? Ils disent à Paola Scala que tu préfères le ciel à ton village. Que dois-je répondre aux gens de chez toi?
Le ciel est un village.
Heureux Henry Bubble, le ciel est un village. Maintenant, as-tu quelque chose à demander, une grâce à obtenir? Parle, le temps passe, l'aube au ciel va monter. Regarde la colline, regarde l'arc de Dieu.
Je voudrais prier.
Conduis la prière, je te suivrai.
Ô mon Père, vous qui êtes clarté, souvenir, intelligence, vous qui êtes épi et grenier, rose et jardinier, vous qui êtes assis à votre propre droite.
Vous qui êtes au ciel.
Ô mon Père, vous qui êtes le jour et les amandiers, le corps infime et l'espace, vous qui êtes chèvre et chevrier, vous qui êtes pâturage.
Vous qui êtes le berger.
Vous qui êtes votre visage, ô mon Père, ô mon Dieu.
Ayez pitié.
La rose à vos pieds est une bête nocturne, l'air est votre chemin.
Celui qui ne vous a pas rencontré n'a pas connu la vie, la force de l'amour. Et la paix des champs.
Quand la lune dévore les plantations et fait de grands trous dans les lacs.
Ayez pitié.
Quand les apôtres la nuit frappent les murs et cherchent les morts.
Ayez pitié. Ayez pitié.
Quand les mots sur les lèvres vont finir.
Rien n'est plus doux que votre ombre.
Jean Lacouture.
On a été mêlés, ma femme et moi, à l'aventure de Monsieur Bubble. C'était l'apparition de cette pièce dans Paris, je crois, c'est en 1950. Ça a été une grande affaire dans notre vie. On allait aux répétitions, on regardait Georges Vitali diriger ses comédiens, Jacques Jouannour, Chauffard. Ça a été une histoire à laquelle nous avons été mêlés, la préparation de la pièce, la générale, et la sortie après dans la presse, et le fait que les deux critiques les plus notoires de l'époque, les plus influents, qui étaient Jean-Jacques Gauthier au Figaro et Robert Kemp au Monde, ont rejeté cette pièce avec violence. Avec insolence, même. On peut ne pas être enthousiaste. Moi, nous l'étions, nous, de Monsieur Bubble, on peut ne pas être enthousiaste. Mais là, on a vu vraiment
réveillez-vous, Monsieur Bubble.
Je dirais,
peut-être
pas un mot politique, réactionnaire. Vraiment, monsieur. On a vu une forme d'art nouveau. Encore une fois, comme les premiers impressionnistes, tout ça, c'était quelque chose de relativement neuf. Ce théâtre presque impalpable, sans intrigue, avec une langue comme des nuages. À travers le ciel, c'est évidemment, ça répondait pas aux règles du théâtre que M. Gauthier ou M. Kemp étaient habitués à suivre. Et nous avons été indignés par cette attitude, le fait que ça a quand même détourné pas mal de public du petit théâtre, la Huchette où se jouait la pièce. Et je me souviens que j'ai indigné par ça, j'ai commis une grande imprudence. J'avais écrit pour Esprit, une revue à laquelle je collaborais de temps en temps à l'époque, j'avais apporté à mon ami Jean-Marie Domnac un petit texte contre l'article que Kemp avait écrit sur M. Bubble, et l'article était intitulé « Mein Kemp », ce qui était évidemment une assez grande insolence. On m'a refusé mon article en me disant que je venais d'entrer au Monde et c'était pas une façon d'y rester.
M. Alexandre, Paola Scala, il y a trop de folie dans ce monde. Après tout, c'est peut-être une ville, le nom d'une localité.
Sûrement un petit village.
Thank you.
Robert Abirached.
Je crois qu'il faut dire deux choses sur ce théâtre. La première chose, c'est que c'est un théâtre complètement insolite en ce sens que c'est un théâtre de poètes. C'est-à-dire, vous prenez le nom des personnages, le nom des endroits où ils vivent, vous prenez les aventures qui leur arrivent, les problèmes auxquels ils font face, il n'y a aucun réalisme, c'est peu de dire qu'il n'y a aucun réalisme dans tout ça, c'est totalement à l'envers de ce qui arrive dans la vie.
Le merveilleux, au quotidien. Hein,
vous avez des horloges qui ne sonnent pas, des bombes qu'on fabrique à partir de violettes, un livre de sagesse qui s'appelle « Mais le trément doux » dans Bob, tenu par un archimandrite, des voyages complètement farfelus, rien ne se passe comme dans la vie. Donc c'est la vie à l'envers. C'est l'autre chose. Et puis alors, sur le plan du langage, les personnages parlent un langage très imagé, fait de proverbes, de citations, de ce qu'on pourrait appeler des apophthegmes en employant un langage un peu compliqué. Enfin, le langage lui-même est un langage, et en même temps très simple. D'ailleurs, rien de tout ça chez Georges Chéadet ne pèse ni ne pose. Enfin, c'est sa poésie en fait qui revient, mais il faut pouvoir accepter, c'est un peu le malentendu qu'il y a eu entre lui et beaucoup de gens, il faut pouvoir accepter que la poésie puisse être théâtrale, comme ça a été le cas sous le romantisme, chez Kleist ou chez beaucoup d'autres. Enfin, si vous voulez, ces personnages sont un peu des marionnettes,
des personnages flottants
délibérément voulus comme tels, c'est-à-dire qui ne se rapportent pas à la vie. Par exemple, Vasco est un petit coiffeur, mais je ne connais pas de coiffeur qui ressemble de près ou de loin à Vasco. Ça l'a amusé d'en faire un coiffeur. L'un des officiers s'appelle le lieutenant Septembre, comme il y a eu le maréchal Juin. C'est du clin d'œil, c'est absolument charmant en même temps, parce qu'il arrive des choses complètement improbable. Bon, alors ça, c'est une partie de son œuvre.
Du surréalisme ou à autre...
C'est certainement très rapproché, très proche du surréalisme, si vous voulez, très certainement. Sauf que chez Chéadet, il y a toujours eu une sorte de... Et c'est peut-être ce qui le rattache à l'Orient, un certain goût du conte. Donc une sorte de structuration dans le récit est plus proche que ce que vous verriez dans un texte surréaliste, si vous voulez. C'est-à-dire que les textes théâtraux surréalistes, qui ne sont pas nombreux, mais les textes d'Aragon, de Soupeau, de Breton, qui sont très très peu nombreux d'ailleurs, sont souvent des textes de provocation. Chez Chéadet, il n'y a pas de provocation. Il y a une sorte de... Comment dire, d'abordage de l'insolite, comme s'il était tout à fait coutumier. Mais moi, je rattacherais ça plutôt à son travail de poète, si vous voulez. C'est-à-dire sa poésie étant une poésie très brève, vous le savez, ça ne dépasse jamais 10 ou 12 vers. C'est presque comme des haïkai. Ce ne sont pas des haïkai, en ce sens que les haïkai sont encore beaucoup plus brefs, si vous voulez, mais ça ne sale jamais, ça ne dépasse jamais une page et quart. Ce sont des images. Là, c'est le théâtre advient à partir du moment où la poésie s'incarne dans des personnages, devient une sorte d'action toujours aussi irréelle, toujours aussi improbable, parce que qu'est-ce qui arrive dans Bob ? Il n'arrive rien dans Bob. C'est l'histoire d'un voyage, d'un monsieur qui doit partir alors qu'il est respecté par tout le monde, qu'il a laissé un livre où chacun vient puiser la vérité, où chacun vient puiser le réconfort, et c'est tout, c'est le départ, le voyage, la mort, mais il ne se passe rien. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver de choses très brèves. Tiens, oui, j'ai là un livre qui n'est pas très loin. De choses très brèves qui fixent des images, vous allez voir. Il y a des jardins qui n'ont plus de pays et qui sont seuls avec l'eau. Des colombes les traversent, bleues et sans nid, mais la lune est un cristal de bonheur et l'enfant se souvient d'un grand désordre clair. Alors, encore un autre. Nous reviendrons, corps de cendre ou rosier, avec l'œil, cet animal charmant. Aux colombes, près des puits de bronze où de lointains soleils sont couchés, puis nous reprendrons notre courbe et nos pas sous les fontaines sans eau de la lune, aux colombes, là où les grandes solitudes mangent la pierre. Les nuits et les jours perdent leurs ombres par milliers, le temps est innocent des choses, aux colombes, tout passe, comme si j'étais l'oiseau immobile. Vous voyez que ce sont des presque des dessins à la pointe sèche presque, vous voyez. Avec des choses surprenantes, des alliances surprenantes, tout passe comme si j'étais l'oiseau immobile. Bon, et ça fait rêver.
Tu as poussé jusqu'au lac.
Oui, tout est prêt. Un batelier nous attendra cette nuit. J'ai vu de loin la ville que nous allons toucher. Elle s'effritait en mille petites images et lumières à la faveur du couchant. Le batelier était mélancolique et souriait à ses filets. Tu n'as rien oublié? Ton sac, ton manteau et ton livre?
Comment était le lac?
Très beau, avec des cercles verts qui s'en allaient légers vers les rives. Quand le batelier avait sa rame ou sa cheville dans l'eau, l'eau, douce à peine, les brisait. Tout était mort comme à l'aube. Et, de loin, la petite ville qui scintillait comme une promesse pour nous.
Mais tu n'as pas entendu les bruits que font les gens quand on les dérange et les petits plongeons de l'eau à la recherche d'un fond de sable. Au crépuscule, c'est très distinct.
Je n'ai entendu que la voix du batelier. Il chantait un air triste.
Georges Chéadé était quelqu'un qui n'expliquait et n'interprétait jamais son œuvre ni les choses, en fait.
Albert Dichy.
Même sur son théâtre, sur ses poèmes, on a très très peu de choses. Beckett, Ionesco, Genet ont surchargé leur œuvre d'indications scéniques, d'interprétations, pour essayer de canaliser, de maîtriser, enfin, ce qu'on pouvait faire de leur œuvre. Chéadé ne disait jamais rien. Et donc, il ne s'expliquait que par image, ce qui fait que c'était à la fois très éclairant et en même temps complètement mystérieux. Je crois que son œuvre lui restait étrangère, en quelque sorte. Je me souviens qu'une fois, par exemple, nous parlions de Monsieur Boble, qui est ce personnage qui lui ressemble un petit peu. C'est sa première pièce de théâtre. C'est un personnage qu'il a inventé, qui est une sorte de sage, ou de saint, ou de figure de poète dans un village. Et je me souviens que j'avais demandé à Georges, quand même, ce monsieur Boble, c'est quand même très étrange, parce qu'il dit à un moment donné qu'il part pour de l'argent. Et on dit à un autre moment qu'il est l'ami des pauvres. Et je lui avais demandé, mais enfin, c'est quand même étonnant que ce personnage parte pour de l'argent. Et Georges m'avait regardé, il m'avait dit, oui, c'est tout à fait étrange. Je ne sais pas, c'est comme ça. Et lui-même cherchait avec moi une explication pour quelque chose qu'il avait créé. En fait, le personnage lui avait échappé et tout se passait comme ça avec lui. C'est-à-dire qu'il ne donnait jamais d'explication.
Comme si le poète, l'écrivain pour Chéadé n'était qu'un médiateur, finalement.
Oui, absolument. Chéadé était très étonné d'avoir écrit ses poèmes. Il me disait, c'est extraordinaire que j'ai réussi à saisir ça. C'est comme si quelque chose l'avait traversé et qu'il avait réussi à le fixer comme un papillon, enfin, sur une page, mais il n'en était ni responsable, ni à proprement parler l'auteur. Enfin, il était simplement le médiateur, voilà.
Bientôt, c'est le matin. Le noir de la nuit a passé dans le jour.
L'ombre commence à souffrir. Il faut quitter les quatre diamants pour toujours et revenir.
Revenir? Ne pas traverser un lac avec celle qu'on aime, mais vieillir, blanchir en une nuit comme l'écume de la mer, sans miracle.
Adieu. Je vais reprendre ma course et m'égarer dans le jour.
Arrêtez, Alexis! La colline est vide malgré le matin. Il faut laisser ici plus qu'une absence. Le dessin d'un ange sur le mur.
Une âme qui attendra.
Qui attendra. Une saison qui ne reviendra plus. vieillesse de cette nuit sur la terre. Oh, belle nuit, dans le matin. Oh, qu'ils sont dorés, vos oiseaux chasseurs, quand ils sont près de vous, et que vous fermez leurs ailes, teintées de sang, comme les cerises du jour. Maintenant, tout est dit. Allons, chasseur.
Éloignez-vous pour que je puisse le faire. Et que vous ne soyez pas trop près de mon cœur.
On peut s'arrêter un petit peu sur la soirée des proverbes, puisque vous l'avez lu de nombreuses fois. C'est un texte pour vous, en quelque sorte, fondateur. Qu'est-ce qui vous a à ce point bouleversé, et qu'est-ce qui a été en quelque sorte initiatique dans cette œuvre pour vous?
Je crois que vous employez un terme qui est tout à fait au centre de cette pièce.
Jean-Claude Morat.
Et c'est l'initiation du personnage principal qui est Argent Georges. Et ce qui m'a bouleversé, c'est cette quête que ce personnage va mener à travers d'autres personnes beaucoup plus âgées que lui, et qui vont lui faire découvrir que cette jeunesse et cette pureté qu'il porte en lui et qu'il préserve farouchement sont voués à un saccage. Et cette projection dans le temps qu'il va effectuer va l'amener, comme vous le savez, à s'offrir au coup du chasseur Alexis, qui sont d'une part des coups de feu, mais qui sont aussi bien une offrande d'amour que ce chasseur lui fait en lui apportant avant terme cette mort, n'est-ce pas, cette mort pour éviter l'autre mort qui était la mort de ses rêves. Et c'est ceci qui m'a bouleversé. Vous allez me dire que c'est assez triste. C'est une pièce en effet extrêmement triste. Mais à travers elle, ce qui la transfigure, c'est précisément la poésie de Georges Chéadet, poésie qui apparaît en particulier dans le second tableau, lorsque le personnage doit traverser une forêt qui est un petit peu comme Brocéliande, qui est une forêt initiatique et à travers laquelle il va rencontrer un certain nombre d'épreuves avant de se rencontrer lui-même sous la personne de tous ceux qui se sont retrouvés dans la maison des quatre diamants.
Et on peut dire d'ailleurs qu'Argent-Georges est aussi une figure emblématique du poète.
Ah, c'est la figure emblématique, c'est-à-dire que Argent-Georges s'offre à la mort comme Monsieur Boble, qui est le poète adulte, va le faire en quittant son village pour offrir aux villageois une absence sans laquelle la poésie ne joue pas son rôle, puisque Georges Chéadet termine l'un de ses poèmes par ce vers qui résume et la poésie et sa poésie, mais la parole est notre seule absence.
Tout se détache sur un fond de silence chez Chéadet, et je crois qu'il avait un tel amour pour le silence que il m'avait dit une fois que, au fond, il se demandait s'il avait bien fait d'écrire parce qu'il avait rompu le silence, et donc qu'il était moins pur parce qu'il avait écrit.
Mais alors, comment se faisait l'élaboration du poème en lui? Parce que c'est quelqu'un qui écrivait très peu.
Il n'écrivait pas. Il n'écrivait pas. Je ne l'ai jamais vu écrire réellement. Pour ses pièces de théâtre, c'était peut-être différent, mais pour ses poèmes, il les écrivait dans la tête. Quand il écrivait, parce que la plupart du temps, il n'écrivait pas du tout, mais lorsqu'il écrivait, il écrivait tout le temps. Donc quand il marchait, quand il se promenait, quand il allait prendre un café, il y avait comme ça des choses qu'il se répétait. Il trouvait, il composait des vers et ensuite il les assemblait. Et une fois que le poème était constitué, il le couchait sur le papier pour ne pas l'oublier. Mais l'écriture ne venait qu'en dernier. Il n'était pas vraiment un écrivain, il était il était comme un médium qui reçoit des choses d'ailleurs, des messages et qu'il transcrit. Enfin, il y avait il n'écrivait pas, il transcrivait.
Jean Lacouture.
Quand l'oiseau se déchire avec son chant, les feuilles incertaines de leur mélancolie parfois cessent leurs plaintes. L'air au loin finit et ne veut plus entendre. Nous passons alors avec nos chiens de dimanche sur le ciel et dans le verger. Et pour l'exil de nos images, nous donnons une ombre à chaque enfant du soir. Il vous disait toujours, tu ne peux pas changer un mot de mes poèmes, grand ou pas, mais en tout cas, il était très, très, très conscient de l'agencement de ces de ces mots et il était très fier de sa brièveté. Il pensait qu'on pouvait partir à ses poèmes. Il y a des poètes qu'il admirait intensément, qu'il aimait beaucoup, comme Paul Éluard. Mais il dit, tu sais, Éluard, tu pourrais peut-être de temps en temps sortir un mot d'Éluard. De moi, tu peux pas sortir. Je ne peux pas sortir un mot.
Il y en a un, enfin bon, je vais tout de même le lire, mais que je sais par cœur pour une certaine raison qui est personnelle. Je vais donc commencer par lui.
C'est un poème qu'il vous a dédié.
Oui, oui, il m'a fait cet immense honneur, oui.
Jean-Claude Morin.
Sous le soleil violet du temps passé, dans le voyage des feuilles mortes, il était une fois un jardin sans fleurs. Personne n'y venait, ni l'écho, ni les âmes, à part quelques chasseurs fatigués par leur âge qui traversaient par là. Vous savez, ces manuscrits, là, j'ai là toute une série de lettres qu'il m'a envoyées dans lesquelles figurent un certain nombre de poèmes du nageur d'un seul amour, et il se raturait très peu, très très peu. Je ne connais pas de poème où l'on ne puisse pas observer cet art de toucher la pulpe du réel, comme le dit un autre poète, la pulpe du réel, et de le faire de la façon la plus nue, de la façon la plus dépouillée. C'est quelqu'un chez lequel on ne voit jamais la main qui écrit. Et d'autre part, quelqu'un qui utilise très peu de vocabulaire expressif. D'ailleurs, pour ce qui est de ses goûts poétiques, parmi les poètes, ses poètes préférentiels, il y avait bien sûr Rimbaud et Baudelaire. Mais parfois, il lui arrivait de me dire à propos de Baudelaire, « Ah, Baudelaire serait encore plus génial s'il avait su renoncer à certains qualificatifs. » Il a souvent souligné, et il l'écrivait à de jeunes poètes, parce que ils étaient nombreux, ceux qui lui envoyaient des lettres, et il leur disait, attention, méfiez-vous des qualificatifs, pas trop de qualificatifs. C'est cela que j'aime dans la poésie de Georges Chéadet, cette assaise extrême.
Chez lui, ce que je trouvais généralement pas dans la poésie moderne, c'est-à-dire une sorte de choc, ce que voulaient à peu près les surréalistes, ce télescopage, ce petit stupéfiant. La première image qui m'a littéralement sauté aux yeux, c'était la lune montée comme un animal d'orage.
Ludovic Soutif, Nicolas Daniel et Samuel Creusevaux, trois anciens étudiants de Jean-Claude Morin et fervents de l'œuvre chéadienne.
Ce genre de traitement d'image m'a attiré vraiment vers lui. Il y a notamment un vers qui m'a marqué, c'est « Je rêve et je suis ici ». On pourrait s'attendre à « Je rêve mais je suis ici ». Et justement, ce rappel de l'ici et une sorte de correspondance entre l'ici et le lointain qui ne se trouve pas, je pense, chez d'autres auteurs, ou en tout cas beaucoup moins fortement.
Moi, il y a un poème qui m'a beaucoup marqué, qui est le poème qu'il écrit à Lamartine, où il parle à travers le lien poétique en fait, qui s'est créé entre le lecteur Chéadet et le poète Lamartine, où il parle d'une vie déliée. Pauvre Lamartine, j'ai porté tes notes dans un carton, et nul n'a eu pitié de moi. Pas même la terre, celle qui a le sang de chaque fleur. Visage du poète au bord de l'eau, tu as délié toute ma vie, comme ces barques. Il y a un phénomène en fait assez étrange qui se produit, c'est que, en ce qui me concerne, l'expérience que j'ai de la poésie de chez Adé se prolonge même quand je ne lis pas chez Adé. Au fond, il y a quelque chose qui est attaché à sa poésie, qui n'est pas purement littéraire. Et il y a en effet ces mots qu'on aimerait avoir formulés de cette manière pour soi-même.
Samuel, c'est à partir de là que vous avez eu envie d'écrire, en tout cas c'est quelque chose qui vous a propulsé vers l'écriture?
Il y a vraiment une sorte de liquidité, je trouve, dans ces poèmes, qui m'a poussé non pas vers des thèmes ou quelque chose de propre à Georges Chéadé, mais vers mes mots, étrangement. Sur une montagne où les troupeaux parlent avec le froid comme Dieu le fit, où le soleil est à son origine, il y a des granges pleines de douceur pour l'homme qui marche dans sa paix. Je rêve à ce pays où l'angoisse est un peu d'air, où les sommeils tombent dans le puits. Je rêve, et je suis ici, contre un mur de violette, et cette femme dont le genou écarté est une peine infinie.
Vous vous êtes imaginé l'homme, les uns et les autres, à travers ce que vous lisiez, ou jamais ?
Je dois avouer que j'ai pas cherché, personnellement, à percer le mystère. C'est-à-dire que j'ai choisi délibérément de laisser le mystère intact. Ce qui fait que je me suis très très peu intéressé à la vie de Georges Chéadé lui-même. Parce que sa poésie faisant partie de ma vie à ce point-là, je préférais garder en moi le visage imaginé de Georges Chéadé à partir de ses vers, plutôt que d'aller voir ce qui, dans sa vie, effectivement, pouvait correspondre à, ou non à l'image que j'en avais.
Oui, moi je voudrais peut-être simplement terminer en témoignant, quoi, tout simplement. On a une poésie qui est attaquée par... corrodée par une modernité... Il y a quelque chose d'intact dans la poésie de Chéadé, il y a quelque chose qui survit à ça, il y a quelque chose d'intemporel dans sa poésie. Non qu'elle soit ignorante de la modernité, de ce qui peut faire la modernité poétique, mais il y a quelque chose qui se maintient au-delà de ça, quelque chose d'intact, quelque chose un peu d'une arche dans la poésie de Chéadé, quelque chose qui a traversé le temps. On retrouve l'essentiel d'un monde et les moyens de le repeupler.
Je vous ai annoncé un grand oiseau de douleur. Au soleil d'or des mois punis, au soleil des vieilles argiles, un chant vous déchirera d'une aube à l'autre. Ô belle, comme la caresse des platanes, vous n'avez pas vu la croix des hirondelles, fougère de la mémoire, la neige salée des feuilles sur les puits. De la cendre sur vos yeux, si vous avez péché comme les grandes verdures. On pourrait voir dans ce poème, enfin lui attribuer, ça a été fait d'ailleurs, un caractère un peu prophétique par rapport à tout ce qui s'est abattu sur ce pays. Car ça a été écrit bien avant.
C'est quelqu'un qui n'a pas eu de... disons, ce n'est pas un poète qui a une conscience politique, on ne peut pas dire ça. Comment est-ce qu'il a vécu justement cette guerre du Liban ?
Il l'a vécu d'une façon très... très secoué, très spasmodique, très, très, très engagé dans les réactions, dans la tension extrême qu'il portait à tous ces événements. Peut-être que cela n'apparaît pas dans sa poésie, parce que je crois que Georges Chéadé a d'emblée dépassé le stade de la poésie engagée. En fait, ces pays dont il nous parle dans sa poésie sont comme un archétype qui correspond au pays que le Liban pouvait devenir dans son esprit. Et donc, ces phénomènes historiques, il s'y intéressait dans la vie, dans le quotidien, il s'y passionnait même, mais dans sa poésie, c'était le caractère épuré de ces événements qui apparaissait.
Comment est-ce que Chéadé a pris la guerre qui a ravagé le Liban beaucoup plus tard et qui a fait qu'il a été, d'une certaine manière, contraint à l'exil, qu'il est revenu à Paris ?
Oui, alors la question que vous me posez...
Brigitte Chéadé.
Michaud me l'a posée, je l'ai rencontrée rue de Seine, il s'achetait, je crois, un bouchon verseur pour un encrier, et il m'a dit « Ah, dites-moi, Chéadé, qui aime le bonheur, qui croit au bonheur, comment ?» comment accepte-t-il la guerre et toutes les atrocités qui s'y passent? Eh bien, quand vous dites exil, c'est vrai que c'est un exil du jour au lendemain d'être obligé de déménager. Et on ne savait pas trop où on allait habiter ici et tout, mais enfin, ça s'est assez bien passé. Mais pour lui, la France, c'était quand même pas l'exil. C'était pas l'exil. Au fond, c'est là qu'il rencontrait les gens qui aimaient sa poésie, qui l'éditaient, qui en parlaient.
Une patrie intellectuelle.
Qui écrivaient sur lui. Ça, c'était important. Ça, c'était important.
Et comment est-ce qu'il voyait le Liban d'ici ?
Il était bien sûr déchiré, mais c'était, vous savez, on a vécu quand même 6 mois de guerre ensemble au Liban, et nous avions les miliciens. Nous habitions le quartier chrétien, nous avions les miliciens qui étaient au-dessus, en dessous, qui sonnaient, et alors par eux, on savait ce qui s'y passait. Mais c'était assez extraordinaire, mon mari raconte toujours, il y avait naturellement les caïds, les gros bras autour de tous ces gens-là, et un jour, mon mari allait chez son coiffeur et il rencontre un de ses gros bras. Il y avait eu une grosse bombe le matin qui nous avait fait sursauter. Et il s'approche de Georges et lui dit, il l'appelait Monsieur Georges. « Monsieur Georges, Monsieur Georges, vous avez entendu la bombe ce matin ?»« Bien sûr que je l'ai entendue. Elle vous a plu ?» Georges, décontenancé par la question, « Elle m'a plu ?»« Oui, vous a-t-elle plu ?» Alors il dit, ah, si c'est pour le bruit, elle m'a plu, oui. Alors il lui a dit, c'est moi qui l'ai posé. Vous retournez bientôt à Paris?
Oui.
Je voudrais vous demander de m'apporter quelque chose. Ça me ferait tant plaisir. Quoi donc? Achetez-moi un petit canari qui chante bien.
Non, on était en place
surréaliste. Alors, on est poseur de bombes et en même temps, on aime les oiseaux. C'est extraordinaire.
Très très attaché au Liban, il n'a jamais voulu devenir français, par exemple, alors qu'on lui avait proposé de devenir français. Au moment où il a reçu le Grand Prix de la francophonie par l'Académie française,
85,
en 85, voilà, il avait, on lui avait proposé de devenir français et de poser sa candidature pour entrer à l'Académie française. C'est une idée qui le scandalisait énormément, parce qu'il avait gardé ça du surréalisme. Enfin, il avait, pour lui, l'Académie française, c'était, il me disait, mais en baissant un petit peu la voix, il me disait, c'est une bande de canailles. Enfin, il trouvait Maurice Druon, qui était le secrétaire perpétuel, très sympathique, parce que il me disait, mais c'est quand même incroyable quand on regarde tous ces gens le jour de la remise du prix, il me disait, il n'y a pas un seul écrivain. Donc, il avait refusé de devenir français parce qu'il voulait marquer son attachement, qui était très profond, au Liban.
Oui, parce qu'il est mort à Paris en exil, finalement.
Il est mort à Paris en exil, il est mort presque sans défaire ses bagages, il passait ses soirées à regarder la télévision, à regarder les nouvelles, à attendre tout ce qui se passait au Liban. Il avait l'air juste comme ça d'un oiseau posé sur une branche, mais prêt à s'envoler. Enfin, l'exil est vraiment le thème fondamental de son œuvre et d'une certaine façon, à la fin de sa vie, il a retrouvé dans sa vie ce thème. Il était comme en voyage. Enfin, il y a une nostalgie qui est à la fois celle de l'enfance, celle d'un monde perdu, mais qui en même temps est plus que cela, qui est la nostalgie. Il y a un poème où il dit pour un pays qui n'a jamais été, enfin... c'est à la fois...
Mon imaginaire,
oui. Oui, il était... Chez Adé était en même temps, il n'y avait pas d'illusion chez lui. Il n'y avait pas... Même pas l'illusion de la nostalgie qui croit à un pays perdu. Il y a une définition des personnages de chez Adé dans la Soirée des Proverbes qui les définit comme bohémiens d'une profonde image depuis toujours. Donc ce sont des bohémiens, comme ça. Donc il y a la notion de voyage, mais depuis toujours. C'est-à-dire que le pays dont ils poursuivent la quête, enfin, est perdu depuis toujours. Et
c'est plus un pays intérieur qu'un pays géographique réel.
C'est un pays intérieur. Même le mot Orient, chez Adé, je me souviens, disait le mot l'Orient n'est pas le pays, n'est pas mon pays d'origine, mais il est le pays de mes rêves, c'est-à-dire qu'il est le pays vers lequel vont mes rêves. C'est une, il disait, c'est comme dans le mot orientation, c'est une direction, ce n'est pas quelque chose qui le tire en arrière, enfin.
Vous diriez que dans ses poésies, en particulier dans le dernier recueil, Le nageur d'un seul amour, il est dans une sorte de mystique orientale. Enfin, vous le placeriez dans cette voie-là. Il y a quelque chose de ces accents de certains poètes mystiques orientaux, quelque chose d'élégiaque.
Élégiaque, oui. Mystique serait peut-être un mot un peu trop appuyé pour Georges Chéadé. Même son rapport avec Dieu était quand même très, très particulier. C'était quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, mais qui croyait en la Vierge. Voilà.
Il était orthodoxe, il faut le
préciser. Il était orthodoxe. Les images, les icônes jouaient un rôle important dans sa vie, dans son imaginaire en tout cas. L'image de la Vierge, l'image de la mère qui se décalque, enfin, de l'image de la Vierge, est prépondérante dans son œuvre. C'est vraiment la grande image. Il avait une sorte de culte pour les images, mais qui était détaché de la croyance elle-même. Il trouvait que les images étaient à la fois belles et tristes parce qu'il savait qu'il n'y avait rien derrière.
Je suis triste des choses de la terre. Ô Madone de plâtre, toi qu'on rencontre, dans tous les salons du ciel, une mouche te fait baisser les yeux. Quand tu allais dans un fiacre vers l'Égypte, les étoiles t'accompagnaient de leur souffle. À mon tour, je vais partir. Juste au milieu de l'âge, je vais prendre la mer. Aide-moi, Marie. Ta légende est une histoire de village. Rappelle-toi les jardins de la Galilée. Tu étais une petite fille. Le rossignol dormait sans solidité dans les feuilles. Posez sur moi votre lumière.
Il parle du rossignol.
Je ne parle pas du rossignol, mais de vous, Marie. Dans les jardins de la Galilée. On te battait. On te réprimandait. Tu allais à la fontaine chercher l'eau, pleine d'images. Tu devins la mère de Dieu après avoir été sa servante.
Vous pouvez raconter les derniers moments de Georges où vous étiez là, à ses côtés?
Oui.
Georges Buis.
J'ai vu la maladie le prendre. Moi-même, j'avais des ennuis cardiaques à un moment donné, puis on m'a fait un pontage. Et après, Georges me disait, tu vois, toi, tu me demandais de ralentir dans la rue, et maintenant, c'est moi qui te le demande. Parce que il respirait difficilement, de plus en plus difficilement. Il avait de la peine à aller du petit restaurant qui était en face de chez lui, et retour, il fallait l'accompagner. Et il est allé plusieurs fois à l'hôpital pour ses difficultés respiratoires. Et une fois, je lui ai vu avoir une crise où, de justesse, on est arrivé lui planter un système d'inhalation d'oxygène sur le nez. Donc tout ça allait mal. Et un soir, je suis allé chez lui et je suis donc entré dans sa chambre où je l'ai trouvé en robe de chambre, assis dans son fauteuil, normal, très vivant, venant de lire Le Monde, exaspéré par des nouvelles qui, à l'époque, c'était la période où on sortait des attentats à Paris, et où les Libanais étaient très mis en cause, et où il y avait un Libanais qui s'était mal conduit dans les affaires et qui faisait la une de tous les journaux à l'époque, ce qui l'irritait qu'on ait une mauvaise opinion de son pays à travers un peu. Et il a fait là un numéro, comme les numéros de Georges, quand Georges parlait. Il ne reconnaissait comme maître que plus fort que lui, que Malraux ou Cocteau, et encore, il n'était pas très sûr de leur donner l'avantage. Donc il me fait son numéro, là, qui n'était pas un numéro, qui était lui-même. Et moi, je le quitte à 8h du soir. Et je rentre chez moi et à 9h, un coup de téléphone m'apprenait qu'il venait de mourir. Il s'était mis à table avec la famille et puis il avait reposé sa fourchette en disant « Non, je n'ai pas faim, je préfère aller m'étendre sur mon lit ». Il s'est levé et il a dit « Tiens, je m'évanouis ». Il est tombé, il était mort. Alors au fond, j'ai passé avec lui une heure de pleine vie, une heure avant sa mort.
Il est enterré au cimetière Montparnasse. Je me souviens aussi que il avait souhaité à un moment donné être... il n'avait jamais été en Bretagne, mais il avait dit une fois qu'il souhaitait être enterré en Bretagne, sur une, dans un endroit où, très, très éloigné, où il, avec une tombe où il n'y aurait marqué aucun nom sur sa tombe, avec simplement comme inscription « Ici repose un poète ». Évidemment, ça avait été difficile après sa mort. Mais donc il est enterré pas très loin de là où il est mort, enfin, à quelques dizaines de mètres.
Il est mort en 1989, c'est ça ?
Il est mort en janvier 1989. Il est mort presque... il était un petit peu malade, mais... en même temps, je me souviens que là... Je pensais vraiment qu'il n'allait jamais mourir. Je savais qu'il était malade, mais... Il avait quelque chose de... Je me souviens, lorsque j'ai appris, lorsque son fils m'a appelé au téléphone un soir pour me dire... Georges nous a quittés définitivement. J'étais bouleversé, j'étais vraiment traversé par une peine énorme, mais je crois que j'ai surtout été stupéfait que Georges puisse être mort. C'était incroyable. Il était hors du temps. Donc, il y a un vers de lui qui dit « Comment mourir quand on peut encore rêver ?» Et c'est quelqu'un qui rêvait perpétuellement.
Georges Chéadet ou La transparence de l'absence par Marie-Christine Navarro avec la voix de Georges Chéadet, Brigitte Chéadet, Albert Dichy, Georges Buy, Robert Abirached, Jean-Claude Morin, Jean Lacouture, Ludovic Soutif, Nicolas Daniel et Samuel Creusevaux. Texte extrait de Lina, Monsieur Bobble, La soirée des proverbes, et le portrait de Jules Supervielle. Mixage, Noélie Louis-Marie et François Rivalan. Réalisation, Daniel Fontanarosa.
Ce n'est pas parce que tu es dans une prairie plus haute que la tête des hommes, que tu es mort. Le vent entraîne les feuilles à la terre, comme un rivage et comme un soupir. J'annonce à ceux que tu as connus ton obéissance à la solitude et ton passage avec des animaux sur une montagne où le bruit est éternel quand on le touche. Et rappelle-toi ce qui faisait ici-bas le charme, les saisons, et la femme sans innocence. En vérité, peu de choses à dire aux ombres, aux mémoires de la vie.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 novembre 1995.